Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonsoir. En Espagne, les séparatistes catalans semblent fermer la porte à une éventuelle sortie de crise 15 jours après le référendum d'indépendance dans la région. Marie-Hélène Ballestero a écouté les déclarations d'Oriol Junqueras, le numéro 2 du gouvernement de Barcelone cet après-midi, compte rendu au début de ce journal. Raqqa et ce soir, Al-Mayadin. Plusieurs fiefs djihadistes sont en train de tomber en ce moment en Syrie. Est-ce la fin du groupe État islamique dans le pays? Le point avec notre correspondante Mélanie Houet dans un instant. En France, des partisans de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se sont mobilisés ce matin à Nantes pour demander la concrétisation de ce projet. Le récit de Pascal Boucherie est à suivre. Enfin, pensez la société autrement. L'association ATD Carmonde y travaille depuis 60 ans. Et pour célébrer son anniversaire, le mouvement de lutte contre la misère propose tout ce week-end des animations Place de la République à Paris. Reportage de Valentine Joubin à la fin de ce journal. En Espagne, la semaine prochaine devrait être décisive pour l'avenir politique de la Catalogne. 15 jours après le référendum d'autodétermination controversé du 1er octobre, Barcelone a jusqu'à lundi pour clarifier sa position sur son projet d'indépendance. Mais le numéro 2 du gouvernement catalan a donné le ton cet après-midi. Bonsoir Marie-Hélène Ballestero.
Bonsoir Anne.
Vous êtes en direct de Madrid. Nous avons l'engagement sans équivoque et absolu de remplir le mandat du 1er octobre. Déclaration d'Oriol Junqueras depuis le siège de son parti il y a quelques heures.
Oui, c'est bien ça, le numéro 2 de l'exécutif catalan Oriol Junqueras a donné le ton, comme vous le dites. Certes, il est favorable à un dialogue. Selon lui, c'est la meilleure façon de construire la République catalane. L'indépendance, eh bien, c'est de parler avec tout le monde, y compris bien sûr avec la communauté internationale. Mais pour Junqueras, ce dialogue n'a qu'un seul objectif, construire cette République catalane et donc remplir le mandat du 1er octobre. Mais le leader de Esquerra Republicana, la gauche républicaine de la Catalogne, est allé plus loin. Il a appelé aussi à l'unité des forces souverainistes catalanes tout en montrant son soutien au président catalan Puigdemont. Un appel très important à moins de 48 heures de la fin de l'ultimatum lancé par le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy. Le président Puigdemont doit prendre une décision et il ne cesse de subir des pressions de tous les côtés et notamment des forces souverainistes qui ne sont pas du tout d'accord entre elles. Les plus radicaux, les anticapitalistes de la coupe, sont très remontés contre Puigdemont après qu'il ait signé puis suspendu mardi dernier la déclaration d'indépendance, à tel point qu'ils ont eux aussi lancé un ultimatum à Puigdemont. Ils lui laissent un mois pour rendre effective l'indépendance de la Catalogne. Au contraire, au sein du PDeCAT, le parti de Puigdemont, il existe de fortes tensions car nombreux sont ceux qui ne veulent pas de cette déclaration unilatérale d'indépendance. Et même au sein de l'association souverainiste, la très puissante ANC, l'Assemblée nationale catalane, eh bien, il existe des fissures importantes, à tel point que la vice-présidente vient juste de démissionner. Et c'est dans ce contexte de tension dans le camp des indépendantistes que Junqueras aujourd'hui a appelé à l'unité et à soutenir le président Puigdemont pour construire cette République catalane.
Merci Marie-Hélène Ballestero pour vos détails en direct de Madrid. L'archipel portugais des Açores menacé par l'ouragan Ophélia. 9 des 7 îles de cet archipel sont placées en alerte rouge ce soir. 40 mm de pluie par heure pourraient tomber avec des rafales de vent jusqu'à 100 km/h. La région viticole de la Californie, la fameuse Napa Valley, toujours ravagée en ce moment par de gigantesques brasiers. 90 000 hectares sont partis en fumée et près de 6 000 bâtiments et maisons. Le bilan provisoire est de 35 morts et plus de 200 disparus. En Syrie, est-ce la fin du groupe État islamique? En tout cas, c'est un symbole fort qui est en train d'être repris aux djihadistes. Raqqa, qui était le bastion de Daesh depuis 3 ans, est libéré en ce moment même par les forces démocratiques syriennes. Bonsoir Mélanie Houet.
Bonsoir Anne.
Vous êtes notre correspondante en direct de Beyrouth. Des négociations avaient été menées ces derniers jours en lien avec la coalition internationale pour assurer justement la reprise des dernières poches de résistance.
Oui, en effet, hein, car la chute imminente de l'organisation État islamique à Raqqa ne sonne pas le glas de la présence du groupe terroriste dans la région. Elle revêt un caractère primordial, certes, puisque les djihadistes avaient fait de cette ville du nord de la Syrie leur capitale lors de l'autoproclamation de leur califat le 29 juin 2014, après en avoir chassé les forces révolutionnaires au régime de Bachar al-Assad. Mais des poches de résistance sunnites ultra-radicales subsistent toujours à l'extrême-est du pays, dans une zone frontalière à l'Irak. La libération du fief syrien de l'organisation terroriste annonce donc davantage la préparation à l'assaut final contre les dernières positions des djihadistes en Syrie, aujourd'hui retranchés dans la province de Deir ez-Zor, où ils sont la cible d'une double offensive menée à la fois par les troupes du régime syrien, appuyées par l'aviation russe, et par celles des forces démocratiques syriennes, soutenue par la coalition internationale menée par Washington.
Et concernant ces derniers assauts et cette province de Deir ez-Zor dont vous venez de parler, la ville d'Al-Mayadin sur les bords de l'Euphrate vient également d'être reprise aux djihadistes.
Oui, absolument. Les forces loyalistes syriennes engagées sur le front ouest du fleuve de l'Euphrate qui coupe la province de Deir ez-Zor en deux ont annoncé en début de l'après-midi la reprise de Mayadin, des mains des djihadistes. Alors, la manière est hautement symbolique et stratégique car la ville était considérée par les soldats du califat autoproclamé comme le centre sécuritaire et militaire de Deir ez-Zor, leur dernier bastion en Syrie. Résultat, l'organisation État islamique est aujourd'hui plus que jamais militairement acculée. Mais attention, cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne détient plus aucune capacité de nuisance. Au contraire, fin septembre, Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé du groupe terroriste, avait appelé ses fidèles à résister et à poursuivre les attentats et les attaques malgré leurs multiples revers sur le terrain.
Merci Mélanie Houé pour vos précisions. Vous étiez en direct de Beyrouth. En Somalie, la capitale Mogadiscio a subi un violent attentat à la voiture piégée ce matin. Le véhicule a explosé dans une rue très fréquentée et les premières informations font état d'au moins 22 morts. Et puis en Côte d'Ivoire, un avion de transport affrété par l'armée française s'est abîmé en bord de mer près d'Abidjan. 10 personnes étaient à bord, des Moldaves et des Français. Il y a 4 morts de nationalité moldave. Les autres passagers sont blessés. En France, les partisans de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique sont inquiets pour l'avenir de ce projet. Ils se sont rassemblés devant l'entrée de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique pour demander son déménagement à Notre-Dame-des-Landes. Des riverains, mais aussi des élus qui ne sont pas satisfaits du rapport d'étape des 3 médiateurs nommés en juin dernier par le gouvernement. Le récit de Pascal Boucherie de France Bleu Loire-Océan.
Une manifestation bruyante mais sans grande perturbation, c'est avec des slogans comme « Hulot, t'es foutu, les riverains sont dans la rue » que les pros Notre-Dame-des-Landes défilent sur la zone d'accès à l'aéroport, plusieurs dizaines de simples partisans du transfert et des riverains qui disent souffrir des nuisances de l'actuelle plateforme. Le déménagement de Nantes-Atlantique est symbolisé simplement par des cartons empilés sur un rond-point à l'entrée de l'aéroport. Pendant quelques brèves minutes, les élus se succèdent à la tribune devant l'entrée principale de l'aérogare. Ils sont de gauche comme de droite. Pascal Bollot, l'adjoint au maire de Nantes, puis Franck Louvrier, vice-président au conseil régional en charge du tourisme. Ils viennent redire leur attachement au projet de transfert. Franck Louvrier espère que le chef de l'État s'exprimera sur le dossier demain soir lors de sa grande interview annoncée sur TF1. Les riverains de Nantes-Atlantique, eux, ont une nouvelle fois rendez-vous lundi en préfecture avec les médiateurs.
Les précisions de Pascal Boucherie de France Bleu Loire-Océan. Et puis plusieurs rassemblements se sont tenus cet après-midi partout en France contre la baisse de 5 euros des APL. À Paris, quelques centaines de personnes se sont rassemblées sur le trottoir et sur la chaussée devant l'hôtel de ville dans le 4e arrondissement. C'était il y a 60 ans, le prêtre d'origine polonaise Joseph Wresinski fondait le mouvement ATD Quart-Monde avec pour objectif de faire disparaître l'extrême pauvreté. Cet anniversaire est célébré ce week-end partout en France et notamment à Paris, place de la République, avec un village des initiatives, des ateliers, des concerts et des conférences sont organisées pour présenter les actions d'ATD. Parmi ces initiatives, des bibliothèques de rue à destination des familles en situation de précarité. Valentine Joubin.
Oui, et comme le veut la philosophie d'ATD Quart-Monde, les bibliothèques de rue sont animées par des personnes qui ont elles-mêmes connu la précarité. Louise, 76 printemps, a vécu 6 ans dans la rue avec son fils et elle en est persuadée, ce sont les livres qui l'ont aidée à s'en sortir.
Tout le monde se moquait de moi en me disant « Ah, qu'est-ce que tu vas lire ? Ça nourrit pas la lecture !» J'ai dit « Si, ça m'a permis d'aérer mon cerveau. Tu rêves pendant que tu lis, tu penses pas aux problèmes qui sont derrière toi. » Et la culture, elle est pour tout le monde, elle n'est pas seulement pour les riches.
Et c'est avec cette conviction que Louise est partie lire des histoires à des enfants roms dans un bidonville d'Aubervilliers, près de Paris.
Les enfants, ils appelaient ça la scola. Même s'ils ne savaient pas le français, ils inventaient des histoires, c'était assez drôle. Et les parents étaient là aussi, ils faisaient des dessins avec les enfants.
Un sac de livres, une natte posée au bas d'un immeuble ou sur un bout de pelouse, toujours dans un quartier populaire, explique Hélène Desouart, elle est coordinatrice des bibliothèques de rue.
On part à la rencontre des gens. Ça peut nous arriver de faire le tour des immeubles, de toquer aux portes, d'inviter les gens à nous rejoindre. Le but, c'est de créer du lien avec tout un quartier. Donc ça se fait pas comme ça, ça se fait dans la durée. C'est pour ça qu'on demande aux animateurs d'être là toutes les semaines. Qu'il pleuve, qu'il vente, les équipes sont là. Il y a quelques temps, il y a des familles qui ont été expulsées d'un camp à Marseille. Et la bibliothèque de rue était présente. Et les enfants et les mamans ont dit « mais ah, vous êtes là quand même ». Et oui, on est là quand même.
Et cet engagement est récompensé à plus d'un titre. Certains animateurs d'ATD Quart Monde ont reçu une formation de médiateur et ils exercent aujourd'hui le métier de bibliothécaire.
Merci Valentine Joubin pour votre reportage. La météo de demain dimanche 15 octobre avec toujours un grand soleil, sauf sur le pourtour du golfe du Lion où il y aura des nuages. Les températures, elles restent 12, 14 à Strasbourg, 17 à Lille et Brest, 18 à Paris, 19 à Bordeaux et jusqu'à 22 degrés, la maximale toujours à Biarritz. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau à la technique. C'était Pierrick Monsigny.